Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Tsege Shifarao. Cette semaine, Escale s'intéresse aux casques bleus et aux opérations de maintien de la paix. La Journée internationale des casques bleus des Nations Unies, célébrée chaque année le 29 mai, est l'occasion de rendre hommage à ceux et celles qui servent l'organisation sur le terrain. En 70 ans, les Nations Unies ont déployé quelque 71 opérations de maintien de la paix à travers le monde. On compte plus de 107 000 soldats de maintien de la paix issus de 122 pays contributeurs de troupes déployés dans 16 missions. C'est en 1948 qu'a eu lieu le premier déploiement de casques bleus des Nations Unies. Depuis cette époque, plus de 3000 hommes et femmes, casques bleus, ont perdu la vie et plus de 100 soldats de la paix sont décédés rien qu'en 2014. Aïchatou Mindaoudou Souleyman, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, leur rend hommage.
La Journée internationale des casques bleus des Nations Unies est l'occasion de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui contribuent de manière inestimable à faire la fierté de l'organisation. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies concrétisent le but de la charte d'unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Au prix d'années de lutte et de sacrifices, les emblématiques casques bleus sont devenus un symbole d'espoir pour les millions de personnes qui vivent dans des pays ravagés par la guerre. Je tire mon chapeau aux plus de 107 000 membres du personnel de maintien de la paix en tenue, originaires de 122 pays qui fournissent des contingents et du personnel de police actuellement déployés dans 16 missions. Au cours de ces 70 années d'existence, l'ONU a mis sur pied 71 opérations de maintien de la paix et déployé plus d'un million de personnes pour aider des pays à accéder à l'indépendance, encadrer des élections historiques, protéger des civils, désarmer des centaines de milliers d'ex-combattants, établir l'état de droit, promouvoir les droits de l'homme et créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des déplacés.
Out front tonight, a quarter million people have fled northern Mali.
La vie d'un soldat de maintien de la paix sur le terrain peut être très mouvementée, notamment à cause de l'atmosphère politique sur le terrain. Ainsi, la MINUSCA, l'opération de maintien de la paix en Centrafrique, a pour mandat, entre autres, d'aider au rétablissement d'un système judiciaire national dans un pays déchiré par la guerre civile où pratiquement tous les services ont été anéantis, comme les prisons par exemple. Oscar Ouédraogo, casque bleu du Burkina Faso, est déployé en Centrafrique comme officier pénitentiaire. Il évoque son rôle sur le terrain.
Dans le cadre de ce grand objectif qui est la restauration de l'autorité de l'état de droit, notre unité intervient essentiellement dans le volet réforme de l'administration pénitentiaire centrafricaine. En fait, cette réforme de l'administration pénitentiaire nécessite la mise en œuvre d'un nouveau cadre normatif qui régit le département de l'administration pénitentiaire et l'opérationnalisation des différents services des établissements pénitentiaires. Et pour répondre justement à cet objectif, notre unité est organisée en plusieurs équipes. Et moi, j'évolue au sein de l'équipe en charge des ressources humaines.
Qu'est-ce qui vous a amené à décider de travailler pour une opération de maintien de la paix des Nations Unies?
Il faut se dire que la volonté de vouloir travailler au sein d'une opération de maintien de la paix est née en fait à partir de mon expérience dans mon pays. Parce que je m'occupais des questions de ressources humaines et je m'occupais des questions de la participation de notre pays, notamment mon corps d'origine, aux opérations de maintien de la paix. Et l'objectif même des opérations de la paix, c'est de contribuer à donner le sourire à des peuples en difficulté. Et je pense que nous qui avons l'opportunité peut-être d'avoir une certaine paix, d'avoir une certaine tranquillité, il est de notre devoir de toujours œuvrer à pouvoir apporter ce sourire-là, de toujours œuvrer à apporter cet espoir-là à d'autres peuples. Et j'ai estimé que si ma contribution, si ce que j'ai comme expérience peut contribuer à cela, ça serait vraiment l'idéal. Il s'agit avant tout d'une question de conviction personnelle. C'est une mission qui nécessite l'intervention à plusieurs niveaux. Il faut d'abord jouer sur la qualité, le recrutement et la qualité des hommes que nous envoyons en prison parce qu'ils partent pour vivre et s'occuper de personnes humaine. Donc, il faut d'abord travailler sur leur formation. Il faut renforcer leurs capacités. Il faut leur donner les moyens. Il faut préparer, aménager leur cadre normatif de sorte à ce qu'ils puissent effectivement remplir ce rôle-là. Ensuite, la personne détenue a besoin de tous les égards possibles parce qu'elle est considérée comme personne vulnérable. Mais malheureusement, dans nos sociétés, la plupart du temps, la prison est reléguée au second plan. On estime que c'est ceux qu'on ne veut pas qui doivent y séjourner, alors que non. Ce sont des êtres humains qui ont droit à la dignité, qui ont droit au respect.
Chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, revient sur ce qu'évoque cette journée dédiée au casque bleu qui, cette année, tournait autour du thème de la réflexion. On l'écoute.
Hervé Latsous, vous êtes chef du département des opérations de maintien de la paix. Le 29 mai, c'est la journée internationale des casques bleus. Une journée cette année sous le thème de la réflexion. Alors, quelles sont vos pensées sur la situation des opérations de maintien de la paix ?
D'abord, une pensée de tristesse et d'émotion, parce que vous le savez, depuis une dizaine d'années, chaque année, nous enregistrons malheureusement plus d'une centaine de décès de casques bleus et un nombre croissant, en fait, à la suite d'attaques ou de menaces très concrètes contre la sécurité de nos troupes. Et c'est quelque chose qui est évidemment inacceptable, mais encore une fois, nous devons saluer la mémoire de nos camarades qui sont tombés en action. Mais il faut aussi se projeter sur le futur et vous le savez, à l'initiative du secrétaire général, un panel de haut niveau travaille depuis plusieurs mois sur une revue des opérations de paix, c'est-à-dire pas seulement les opérations de maintien de la paix, mais aussi les missions politiques. Et j'en ai beaucoup d'attentes. Je crois que nous avons beaucoup travaillé avec les panélistes, nous avons beaucoup échangé. Et j'ai la conviction, en fait, que ce rapport, lorsqu'il sera rendu public vers la mi-juin, nous aidera à imaginer comment doit continuer d'évoluer le maintien de la paix au cours des 15 années à venir.
Alors, vous revenez tout juste de la République centrafricaine ainsi que du Mali. Avez-vous eu l'occasion de dialoguer avec les casques bleus sur le terrain ?
Bien sûr, je le fais systématiquement et je crois que c'est particulièrement utile dans ces deux missions qui sont pour nous les plus récentes. Le Mali il y a 2 ans, la Centrafrique l'an dernier. Ce sont des missions qui font face à des situations très spécifiques, avec des menaces très caractérisées. Et donc, ça nous amène à être très créatifs, à nous doter de nouveaux équipements, de nouveaux outils. Et dans ce point de vue-là, le Mali et la Centrafrique sont aussi des laboratoires, un petit peu de ce que pourra devenir le maintien de la paix dans les années qui viennent. Donc oui, il nous faut constamment améliorer, et c'est une de mes priorités absolues, de continuer à travailler sans cesse à améliorer l'efficacité et la performance de nos équipes sur le terrain.
Est-ce que ces casques bleus ont partagé certaines préoccupations, sachant qu'au Mali, c'est quand même la mission où l'ONU a perdu le plus de casques bleus depuis le mois de janvier. Qu'ont-ils partagé avec vous ?
D'abord, cette inquiétude-là sur le plan sécuritaire, c'est parfaitement légitime et nous y travaillons activement. Mais aussi perplexité devant un processus politique qui ne va pas aussi loin et aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Un cessez-le-feu qui ne tient pas vraiment, donc une multiplication d'incidents qui sont autant de risques pour à la fois nos gens et pour les populations civiles.
C'est important que nous puissions régulièrement rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui se battent sur le terrain pour que la paix revienne dans le monde.
Une marque de reconnaissance à tous nos hommes, tous ceux qui sont dans le système des Nations Unies, qui travaillent chaque jour pour que la planète ait la paix.
Jean-Marie Guéhenno a été pendant 8 ans le chef des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies et vient de publier ses mémoires intitulées « Fog of Peace », le brouillard de la paix, suite à cette expérience. Selon lui, la paix est difficile à reconstruire, d'autant que la nature des conflits depuis le début du XXIe siècle s'est métamorphosée.
Si j'ai voulu parler du brouillard de la paix, c'est parce qu'aujourd'hui, entre la guerre et la paix, la séparation est de moins en moins claire. Et notamment, quand il s'agit de maintien de la paix, on voit souvent des casques bleus qui sont déployés dans des situations où ce n'est plus la guerre, mais ça n'est pas vraiment la paix. Ça, c'est la première raison pour ce titre. La deuxième raison, c'est que quand on veut faire la paix, et c'est le rôle de l'ONU, c'est le rôle des casques bleus, il y a une grande difficulté éthique. C'est quelle paix est suffisante. Parce que ce n'est pas votre avenir que vous jouez, c'est l'avenir des autres. Et donc, votre rôle, c'est d'aider ceux qui ont fait la guerre à faire la paix. Mais il ne faut pas avoir trop de certitude sur ce que doit être la paix. Parce que cette paix, ça n'est pas votre choix. Et donc là aussi, l'objectif, d'une certaine manière, est dans le brouillard. D'où le titre que j'ai choisi.
Vous avez été à la tête des opérations de maintien de la paix pendant 8 ans. Comment assumiez-vous ce rôle si vous ne pouviez pas vraiment imposer de paix en tant que tel?
Je crois que sans imposer la paix, on peut aider les communautés qui vivent dans la guerre à trouver la paix. Parce que ce qu'on voit dans beaucoup de situations, c'est qu'après une guerre, il n'y a pas de confiance, évidemment. Il y a un grand sentiment d'insécurité. Et d'avoir une tierce partie impartiale qui s'insère dans un pays, c'est un élément de réassurance très important pour faire la paix. Les casques bleus, ils sont là dans cette période où la guerre a diminué, où elle n'est pas forcément vraiment terminée, où la violence quand même commence à être réduite de façon significative, mais où il n'y a pas encore la confiance. Et là, il faut en quelque sorte un témoin, et plus qu'un témoin, un acteur international pour, disons, franchir cette passerelle fragile qui va de la guerre ouverte à la vraie paix.
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ces mémoires? Est-ce que ces années, finalement, vous restent en tête?
Ces 8 années que j'ai passées à la tête des opérations de maintien de la paix, j'ai le sentiment d'avoir eu d'abord la chance d'être au centre de beaucoup des crises du début de ce millénaire. Et puis, au fond, j'avais une sorte de devoir de partager cette expérience, parce que malheureusement, le type de crise auquel j'ai été confronté, je crois qu'on va continuer de les voir dans les années qui viennent. Et donc j'ai pensé que l'expérience de ces années pouvait être utile, aussi bien les erreurs que les succès.
Le sous-titre dans votre livre, en fait, parle de la paix ou de la construction de la paix au XXIe siècle. Comment la voyez-vous? Comment la percevez-vous avec l'expérience que vous avez eue?
Je crois que les conflits sont en train de se transformer. On a vu pendant longtemps des conflits qui opposaient des nations clairement constituées. Aujourd'hui, non seulement on a des conflits à l'intérieur des États, mais, disons, les contours des différents acteurs du conflit se brouillent. De sorte, ils se brouillent et puis ils franchissent les frontières des États. Vous voyez aujourd'hui la situation entre la Syrie et l'Irak, où il y a une sorte de continuum entre ces deux pays. Vous voyez la situation dans le Sahel, où on ne va pas régler la question du Mali, indépendamment, au fond, de la stabilisation de l'ensemble du Sahel. Et on voit l'impact, par exemple, de la Libye sur tous les pays du Sahel. Aujourd'hui, si on veut régler les conflits, et je crois que ce sera le cas dans le XXIe siècle, il faut penser un peu au-delà des cadres stricts, pays par pays. Il faut penser souvent sur une base plus régionale. Et puis, il faut aussi aider, au fond, à construire des pôles politiques, si je puis dire. Parce que une des caractéristiques les plus frappantes de la situation nouvelle, c'est, au fond, que les frontières aussi se brouillent entre politique, crime, agenda personnel. Vous voyez des chefs de groupes politiques qui deviennent en réalité des chefs de milices, qui sont là aussi pour leurs intérêts financiers directs. Et donc ça, c'est une complication supplémentaire. Et c'est un reflet, je dirais, d'une sorte de crise de la politique qu'on voit dans les pays en conflit, mais qui n'est pas seulement dans les pays en conflit, pour être franc. Et donc ça rend le travail des Nations Unies beaucoup plus difficile aujourd'hui.
Et c'est avec ces derniers mots que se referme cette édition du magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine aux casques bleus et aux opérations de maintien de la paix. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.